Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et parmi les nouveautés à l'affiche au cinéma, la comédie À bras ouverts avec Harry Habitant et Christian Clavier, le retour des Power Rangers et des Schtroumpfs, et notre coup de cœur pour le film documentaire L'Opéra. On détaille tout ça dans un instant avec Anthony Martin et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des exemplaires du DVD du film d'animation Vaïna qui sort aujourd'hui. Nous retrouverons nos express du jour préparés par Charlotte Arrigoni et puis la belle musique de Mathieu Chédid. Nous découvrirons son nouvel album L'Anomalie, un époustouflant voyage en Afrique. M s'est confié, bien entendu, au micro de Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant cela, je me tourne vers vous, Monique Younes, puisque vous nous annoncez en exclusivité ce matin le titre du prochain album d'Astérix qui sera en librairie le 19 octobre.
Mais après Astérix chez les Pictes et le Papyrus de César, Jean-Yves Ferré et Didier Conrad signent le troisième album d'Astérix, dont le titre m'a été dévoilé par Jean-Yves Ferré.
Suspense.
Astérix et la Transitalique.
La Transitalique, pourquoi donc ?
C'est pas une maladie, hein. Il vous faut penser à, je sais pas, Trans-Sibérie, Trans-Amazonie.
Et Transitalique, donc, qui nous emmène en Italie.
Et voilà qui est original. Parce qu'en fait, on connaît Rome depuis toujours avec nos amis gaulois. On connaît les Romains, on connaît qu'eux. Mais est-ce qu'on avait eu l'idée de faire un tour en Italie ? Et non. Ce qui est amusant, c'est de présenter justement l'Italie comme elle était au temps des Gaulois, c'est-à-dire avec des peuples et des régions finalement qui n'étaient pas encore unifiés.
Bon, César pensait-il à unifier l'Italie ? On le découvrira dans oui. Astérix et la Transitalique. Et parmi les régions italiennes que nos vaillants Gaulois vont visiter, il y aura Venise en clin d'œil à Albert Uderzo.
Bah, Uderzo est content. Il a approuvé cette histoire. Il nous a fait un petit signe sympa. Je pense que là, on lui a fait plaisir parce qu'il vient, je crois, d'un village qui s'appelle Oderzo aujourd'hui, qui est dans la région de Venise.
Le scénario est donc terminé ?
Oui, Jean-Yves Ferré a terminé le scénario et le découpage de l'histoire. Mais pour le dessinateur Didier Conrad, c'est un peu plus compliqué, m'a dit Ferré.
Didier Conrad est en pleine bourre parce que pour lui, il est loin d'avoir terminé. Il en est à la phase de l'ancrage. Et c'est beaucoup de travail, surtout sur cet album qui est particulièrement difficile à dessiner, je trouve. Beaucoup de personnages nouveaux, beaucoup de détails, beaucoup d'actions. On m'a fait remarquer aux éditions là, que cet album risque de battre un record en termes de nouveaux noms, parce qu'il y a pas mal de nouveaux personnages qui apparaissent.
Combien ?
Oh, je dirais une bonne dizaine.
Dites-moi, est-ce qu'il y aura des femmes ?
Oui, il y a toujours des femmes, il y a même une aventure esquissée, sentimentale avec Obélix. C'est-à-dire que Obélix va connaître une sorte de petit coup de foudre, mais on va vite s'apercevoir qu'en fait, ça concerne plutôt Idéfix que lui-même.
Déjà dans l'album précédent, oui. Le Papyrus de César, Obélix avait des velléités d'indépendance. Alors dans cet album, j'ai l'impression qu'il va carrément se révolter sur une des planches dévoilées par les éditions Albert René. Obélix veut lui aussi être ce guerrier vif et malin qu'on admire chez Axiéris.
Finalement, le déclencheur de cette histoire, c'est lui. Les menhirs, ça va bien un peu, quoi. Il peut sentir qu'on le cantonne un peu à cette image. Bon, comme il dit lui-même, si j'ai envie de faire carrière ailleurs, après tout. Donc, il revendique à son tour d'être un peu le héros de l'histoire.
Et voilà pourquoi je crois adorer déjà cet Astérix et la Transitalique.
Et puis Obélix, c'est évidemment votre personnage préféré, d'ailleurs,
comme
moi.
L'amour, ça ne s'explique pas.
Non.
Par exemple, Jean-Yves Ferré a un faible pour Ashkanonix, le doyen du village. Je sais qu'il lui a réservé quelques gérontopholies de choix. La question que je lui ai posée en ces jours d'intense actualité politique, c'est de savoir s'il y aurait des références à ce que nous vivons en ce moment dans Astérix et la Transitalique.
Il n'y aura pas d'allusion aux élections présidentielles et aux primaires. Il n'y a pas d'allusion aux particules fines, aux perturbateurs endocriniens, à l'état d'urgence, tout ça. Pas d'allusion au sondage. Donc on va un peu se détendre.
Voilà, c'était Jean-Yves Ferré qui est en Italie à la foire du livre de jeunesse de Bologne pour présenter le prochain Astérix et Obélix. Le 37e album de la série sera en librairie le 19 octobre prochain et qui aura donc pour titre
Astérix et la Transitalique. Vous l'avez découvert en exclusivité sur RTL. Tout cela grâce à Monique Younes. Merci chère Monique. Dans quelques instants, nous vous parlons télévision avec nos audiences et les choix de votre soirée préparés pour vous par Isabelle Morini-Bosque. A tout de suite, belle journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Alors, on en vient à nos audiences télévisées avec Médiamétrie et une précision tout de suite très importante concernant l'émission politique et le débat d'hier soir.
Oui, les chaînes d'infos en continu font toujours l'objet d'un traitement à part. On connaîtra donc leurs audiences vers 10h30-11h, mais vu les autres résultats que je vais vous donner, on peut raisonnablement penser que celles de BFM TV et CNews seront conséquentes. Parce que, par exemple, Capitaine Marleau, hier soir sur M6, rassemble 5 600 000 téléspectateurs, largement en tête, mais il y en avait quasiment 1 million de plus la semaine dernière. Et Un plan parfait, le film de TF1, rassemble 3 400 000 personnes et 14% du public. Et Premier Homme sur M6, 1 800 000. Donc vous voyez, et aucune des audiences de la TNT sont très faibles, donc on peut miser sur une très forte audience pour les chaînes d'info en continu.
Analyse déductive d'Isabelle Morini-Bosque sur des chiffres que nous aurons a priori entre 10h30 et 11h, c'est
oui,
bien ça?
Oui, vous voyez, 12 millions de téléspectateurs hier dans les grandes chaînes contre 16-17 la semaine dernière. Voilà.
Parfait, on va suivre ça bien entendu de très près sur RTL. Alors on passe à notre soirée télévisée et on note ce soir une fin et un début, Isabelle.
La fin, c'est la fin du feuilleton Les Témoins sur la 2. L'héroïne va-t-elle échapper au tueur? 3 200 000 téléspectateurs veulent savoir. C'est un peu froid et pas seulement parce que le tueur congèle ses victimes. Le début, c'est celui de la saison 13 de Grey's Anatomy sur TF1. J'ai adoré les histoires du jour. On est toujours entre bistouri et bistouquette avec le chirurgien Karev qui démolit son pseudo-rival et un autre chirurgien qui s'éprend de l'héroïne Meredith. Les voici au mariage de leur collègue.
Ça l'a été pour toi?
Tu penses vraiment qu'on doit en discuter maintenant?
T'as raison.
Tu sais, ils viennent tout juste de se marier, alors essayons d'être un peu heureux pour eux pendant au moins 5 minutes.
Ouais.
Alors moi, certains dialogues brechtiens, franchement, m'ont fait sourire.
J'ai quelque chose à faire que je veux pas faire du tout.
Alors le fais pas.
S'il le faut.
Alors fais-le.
Je vais le faire.
Voilà. Alors moi, c'est drôle. J'adore dans beaucoup de séries américaines, ce sont les prologues et les épilogues des épisodes qui sont toujours un peu cucu pontifiant. Écoutez.
Le passé est écrit. On ne peut pas le changer. Ce qui est fait est fait. Mais c'est à nous d'écrire l'avenir.
Voilà.
Pour le meilleur ou pour le pire.
Et il y a toujours en revanche des scènes drôles. On termine par une malade qu'on appelle Wilma alors qu'elle s'appelle Patricia.
Ce n'est pas Wilma.
Bon, vous savez comment ça se passe. On va faire d'autres analyses. Vous allez passer un scan préopératoire et demain, on s'occupera de Wilma.
C'est Patricia. Oh. Patricia.
Elle parle de la tumeur, chérie. Je m'appelle Patricia et la tumeur, c'est Wilma.
Elle a donné à sa tumeur le prénom de la maîtresse de son ex-mari.
Wilma, parce que ce sont toutes les deux de gros tas de chair dont je veux me débarrasser.
Voilà, 20h55, TF1. Honnêtement, les deux épisodes sont très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Vous aimez bien Grey's Anatomy. On va donc parler cinéma maintenant. On ouvre cette page avec vous, Anthony Martin. Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, un œil sur le box-office, bien entendu.
Avec les chiffres du site cbo.fr, ça démarre très fort pour le film d'animation Baby Boss dans le top 5 des meilleures premières semaines de l'année, avec plus d'un million de spectateurs. Scarlett Johansson et Juliette Binoche, de leur côté, rassemblent 470 000 personnes avec Ghost in the Shell. Et déception pour Kev Adams, Gangsterdam n'a attiré que 250 000 personnes en salle.
Du côté des sorties de ce 5 avril, une comédie française qui risque fort de remuer le box-office.
Ouais.
Il s'agit de À bras ouverts de Philippe de Chauveron.
Réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, plus de 12 millions d'entrées en 2014, il faut le rappeler. Dans À bras ouverts, les ressorts sont les mêmes. On retrouve Christian Clavier, il est Jean-Étienne Fougerolles, un intello gauche caviar, qui, pris dans un débat à la télé face à un élu du FN, est sommé de répondre à cette question.
Seriez-vous prêt à accueillir des Roms chez vous, oui ou non?
Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Roms est dans le besoin,
elle est la bienvenue à la maison. Chez moi, 2 allées des roses à Marne-la-Coquette.
Évidemment, ding-dong, on l'entend, le soir même, une famille de Roms et leur animal de compagnie, un cochon, sonne à la porte de la maison cossue des Fougerolles. Elsa Silberstein joue l'épouse de Clavier. Le chef des Roms s'appelle Babi, qu'il est interprété par Harry Habitant. Et c'est parti pour 1h30 de cohabitation et de péripéties. Le tandem Christian Clavier-Harry Habitant porte le film. C'est leur troisième collaboration au cinéma, Harry Habitant.
Christian, c'est un acteur qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi, il m'a appris une chose, c'est que d'arriver sur le premier jour de tournage, scénario su. C'est-à-dire qu'il connaît tes répliques, il connaît les siennes. Ça te donnera une immense liberté, Harry. Il me disait toujours, apprends tout bien avant d'arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a rien qui est au hasard. L'improvisation, elle vient parce que tu as travaillé. Et dès la première prise, il est dedans à 150%. Il n'y a pas d'échauffement. L'échauffement, c'est avant. C'est un TGV à 450 km/h.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez laissé rentrer le cochon dans votre église?
Tu as raison, on a été trop gentils hier soir, on leur donne ça, ils prennent ça.
C'est quoi cette réaction de gros bourgeois, Réac, là?
Gros bourgeois?
rien.
Pardon, Lionel, je pense qu'on est quand même des gens très ouverts.
Ah bah oui, on a une porte dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça.
Très ouvert, ces pauvres gens dans mes uns sur les autres dans leur caravane comme des chiens. Au lieu de vous plaindre, vous feriez mieux de leur proposer les deux chambres d'amis.
Ces gens-là n'aiment pas les maisons en dur. J'ai peur qu'ils se sentent emprisonnés.
Tout à fait, ton père a raison. On doit respecter leur mode de vie. Et puis, ils aiment bien le côté bohème, fait de brick and broc.
Non. Nous pas aimer brick broc. Nous préférons chambre et maison toutes deux.
Oui, nous aussi, aimer confort.
Ah ben, vous voyez, ils sont comme nous.
Ça marche, hein, ça vous fait rire.
Le port a l'air très bien. Hein.
Ah, il est en pleine forme, survolté comme Christian Clavier. Ceux qui avaient dénoncé l'accumulation de clichés au marqueur dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pourront faire de même à propos de À bras ouverts. Il y a des moments qui m'ont un peu gêné. C'est tellement cliché. À bras ouverts, rit-il du racisme ou rit-il avec le racisme ? Harry Habitant défend les intentions du film au micro RTL de Stéphane Boutsock.
On ne dénonce pas des choses avec des bons sentiments aussi. Parce que ce film aussi, c'est une déclaration un peu d'humour à la France. Ça existe. Donc, beaucoup d'humour. On est là pour ça, nous. Les gens, quand ils vont voir ce film, si quand ils vont voir un Rome dans la rue et ils vont s'arrêter et parler avec, on a déjà gagné. On va voir les choses autrement. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas cette culture rome. Donc, on a été en Roumanie, on a été dans des villages roms, on sait comment ils vivent, on sait que c'est une différente culture. On sait que, en fait, on est tous les mêmes, on veut tous kiffer ensemble, rigoler ensemble et partager des choses ensemble. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est exactement le contraire d'un film raciste. C'est un film non seulement antiraciste complètement, mais en plus un film qui dit « N'ayez pas peur, on peut vivre ensemble ».
Harry Habitant, Elsa Zilberstein et Christian Clavier à l'affiche de À bras ouverts en salle aujourd'hui. Autre nouveauté au rayon cinéma français, Corporate, premier long métrage de Nicolas Siol avec Céline Salette et Lambert Wilson. Le thème, les rapports humains en entreprise et une certaine forme de management qui peut détruire des vies et des individus. Face à un suicide dans son service, la gestionnaire des ressources humaines, jouée par Céline Salette, est sommée par sa direction de porter le chapeau. Restera-t-elle Corporate ou brisera-t-elle la loi du silence ? Un scénario, une réalisation plus musclée aurait permis de vraiment basculer dans un thriller psychologique, mais c'était malheureusement pas le cas. On reste entre deux eaux. À noter toutefois l'excellente performance de Céline Salette qui porte son rôle avec éclat, comme d'habitude.
Une merveilleuse comédienne. Ouais. On change d'univers avec une autre sortie en salle ce mercredi. Oui. Ça, on change vraiment d'univers. La super production américaine Power Rangers.
Oui, nouvelle adaptation de la série télé culte qui a marqué les enfants et préados des années 90 et qui veut séduire les préados d'aujourd'hui. Cinq mômes découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Alors ils vont faire équipe pour devenir les Power Rangers. Et leur combinaison de cinq couleurs différentes, là, chacun leur couleur, leur mission, combattre des créatures qui veulent détruire le monde, c'est original. Il y a deux problèmes. Un, ils mettent 1h30 à se déguiser en Daft Punk, autrement dit à devenir des Power Rangers. C'est un peu long, d'autant qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Et deux, les monstres et les effets spéciaux arrivent donc dans la dernière demi-heure du film et c'est pas beau, quoi. Voilà, je passe mon tour.
Notre assistant Jean a beaucoup aimé le film, hein, je tiens à le préciser.
Mais peut-être a-t-il grandi avec les Power Rangers.
Ah,
mais
c'est possible, oui.
C'est ça, en fait.
Pour les plus petits, les Schtroumpfs sont à l'affiche, alors.
Voilà, alors ça, tout le monde va aimer. Les Schtroumpfs et le village perdu. Après deux films mêlant acteurs réels et images de synthèse, Sony propose les Schtroumpfs en film 100% animation. On retrouve la Schtroumpf fête, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf maladroit. Ils suivent une carte vers un mystérieux village sur leur chemin. Des embûches, des créatures magiques et puis le méchant Gargamel et son chat Azrael.
Ne le laissez pas s'échapper ! Est-ce que c'est prudent ?
Vu que c'est une arbalète géante et j'ai envie de te dire pas du tout ! On y va !
Les copains, je suis vraiment mort de Schtroumpf
alors ! Cause toujours, papy Schtroumpf.
Voilà, pour divertir les enfants. Les Schtroumpfs et le village perdu avec les voix françaises de Laetitia Milo, Gérard Hernandez et Arié Elmaleh.
Et le chat.
Oh, j'adore. Alors, on termine en tenue par l'opéra. C'est un film documentaire de Jean-Stéphane Bron.
Ah, j'ai beaucoup aimé. De janvier 2015 à juillet 2016, le réalisateur a filmé le quotidien de cette micro-société qu'est l'Opéra de Paris, montrant l'excellence de la culture française, ce qui est possible, ce qui est magique, le vivre ensemble, montrant aussi ce qui marche moins bien, les tensions dans une maison très syndiquée, les restrictions de l'État. C'est vraiment un voyage exceptionnel en coulisses pour que tu aies de moments sidérants. Ce passage en est un. La rumeur enfle autour de la démission du directeur du ballet Benjamin Millepied. On l'a vécu, cette démission, elle a été très médiatisée. Et le directeur de l'opéra, Stéphane Lissner, exaspéré par les tergiversations de son directeur de ballet, parle à Millepied au téléphone et le pousse vers la porte.
Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas rester dans cette incertitude, dans ce flou. Donc d'ailleurs, tu parles à d'autres personnes qu'à moi. Donc en parlant de tes hésitations, tu t'introduis forcément un doute dans l'esprit des danseurs, dans l'esprit de l'administration et même en dehors... auprès des journalistes, donc c'est ça qui peut pas... Mais oui, évidemment, j'ai un successeur. Bah, écoute, Benjamin, ça fait 30 ans que je dirige les théâtres, je vais pas aujourd'hui rester en attendant ta décision, ton bon vouloir. Évidemment, je me suis organisé et je suis tout à fait prêt. Bah, évidemment. Ouais. Ok, on se rappelle. Ciao.
Et ça, c'est le bruit du téléphone que le grand patron jette sur la table. Moment sidérant. Il y a aussi dans ce documentaire...
On dirait un film américain.
Ah oui, vraiment, ça se passe en temps réel. Et puis ça a été tellement médiatisé qu'on voit enfin comment ça s'est passé en coulisses. Quoi. Donc, il y a des moments aussi cocasses dans ce film l'opéra. Le casting de Easy Rider, c'est le nom du taureau, choisi pour apparaître sur scène dans une cage en plexiglas pendant l'opéra Moïse et Aaron. 1,5 tonne, la bête. Ses horaires sur son contrat, puis cette remarque d'une assistante pas très rassurée. S'il s'énerve, est-ce qu'il pète le plexiglas? Ouais, c'est assez marrant. On suit aussi l'émerveillement de Micha Timoshenko, un jeune baryton russe qui intègre l'institution. Et puis à noter l'apparition de notre Charlotte Latour lors d'une interview avec le directeur de l'opéra. 1h50 dans les coulisses des opéras Garnier et Bastille. C'est formidable, c'est signé Jean-Stéphane Bro.
L'élixir d'amour de Donizetti, ouais. Une des œuvres qui accompagne le documentaire L'Opéra. On termine avec la sortie DVD du jour. Il s'agit du DVD du film d'animation Vaiana. On vous l'offre maintenant et on ajoute un iPad mini pour le plus rapide au 3210. Dites donc, est-ce qu'on est gentil, ouais. Il faut répondre pour cela à la question que vous pose Anthony.
Alors, on vous a parlé du méchant Gargamel, oui. L'ennemi des Schtroumpfs. On a même entendu son chat roux. Comment il s'appelle ce chat? Voilà, comment il s'appelle?
On vous l'a dit au moins trois fois, ouais. Ou en tout cas deux. Hein. Allez, vous nous appelez au 3210 et puis pour vous récompenser dans un premier temps, vous aurez déjà dans quelques instants, les dernières infos de Charlotte Arrigoni avec ses Express.
Les Express LVT.
Et c'est maintenant.
Ah, c'est tout de suite.
Bah oui,
bon, voilà,
allons-y.
Fallait me le dire. La chanteuse Louane de retour au cinéma.
Oui, 3 ans après La Famille Bélier, elle sera à l'affiche en juin prochain de Nos Patriotes aux côtés d'Alexandra Lamy, réalisé par Gabriel Le Baumin. Mais surtout, elle va démarrer très prochainement le tournage d'un autre film. Le projet baptisé Les Affamés est encore très secret, mais elle a accepté d'en dire quelques mots au micro RTL de Laurent Marsic.
J'ai un film qui s'appelle Nos Patriotes qui sort en juin. C'est un film de Gabriel Le Baumin. Et là, je commence un tournage dans quelques semaines, qui est un premier film qui s'appelle Les Affamés, et c'est de Léa Fredval, donc c'est tout neuf. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ce film. Pour l'instant, je peux pas encore en parler, malheureusement. On va dire que c'est un film très générationnel, un peu sociétal, si on peut dire ça comme ça. On est très très loin de La Famille Bélier, c'est deux univers complètement différents. Et c'est génial parce que j'avais vraiment envie de pouvoir apprendre de nouveaux rôles. Je suis au tout début de ma carrière, à vrai dire, j'ai que 20 ans. Donc c'est le moment d'essayer de tout jouer, d'essayer de voir le plus possible les différences des caractères, et ça c'est cool.
Louane, qui avait décroché un César en 2015 pour son rôle dans La Famille Bélier.
Que donne le palmarès hebdomadaire des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express?
En ce qui concerne les romans, podium inchangé avec Dans l'ordre, J'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan, suivi de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano et du troisième tome de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Mais le phénomène de la semaine, c'est la progression spectaculaire du lauréat du Grand Prix RTL Lire 2017, Tanguy Viel. Son livre, Article 350 du code pénal, gagne 10 places et passe de la 16e à la 6e place.
C'est l'effet RTL. Hein. Tanguy Viel était venu nous en parler dans Laissez-vous tenter lors de l'annonce de son prix il y a 15 jours. Charlotte, qui est en tête des ventes des essais et documents.
Eh bien, en tête des essais et documents, il s'agit de Bienvenue Place Beauvau, le livre enquête de journaliste du Canard Enchaîné sur lequel s'est appuyé François Fillon pour dénoncer un supposé cabinet noir de l'Élysée.
Palmarès complet à retrouver, bien entendu, dans les colonnes de nos confrères de l'Express.
Avis aux amateurs de Candice Renoir, La Maman Flic reviendra sur France pour une 5e saison le vendredi 28 avril à 20h55. Il y aura au total 10 épisodes de 52 minutes.
Alors, vous n'avez pas vu, pardonnez-moi, tous les grands classiques du cinéma, ben c'est l'occasion de se rattraper. We're just two little
girls. En effet, puisqu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain inclus, a lieu le festival Play It Again, l'occasion de visionner ou de revisionner une vingtaine de classiques dans 190 salles en France, au programme notamment La Mélodie du Bonheur de Robert Wise ou encore Les Hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe.
On reste très bien avec elle, mais on n'a pas le temps. Alors, on le connaît, ce footballeur, Ronaldinho change de registre.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'ancien international brésilien a troqué les crampons pour la chanson. Il vient de dévoiler son premier single. Ça s'appelle Sozinho, traduction de seul en portugais, extrait. Eu agora sozinho, não me sinto mais fraco ou mais forte, mas quem sabe a sorte me conforte. Nessa batalha eu já pude andar com três, Déjà près de 240
000... Il est pas ridicule.
Non. 240 000 visionnages sur YouTube pour ce premier titre de Ronaldinho qui a entièrement composé son morceau.
Ah, en plus. Ah, c'est bien.
C'est vrai qu'on se verrait bien sur la plage avec un ballon de football. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Dans quelques instants, on découvre le dernier album de Mathieu Chédid et je peux vous dire que c'est magnifique. Nous serons avec Stephen Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Musique maintenant. 5 ans après son dernier album solo, Mathieu Chédid est de retour cette semaine au Rayon 10, qu'il publiera vendredi L'Amomalie. C'est un opus collectif, hommage au Mali. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez nous faire découvrir cet objet tout à fait singulier.
Ah oui, c'est un disque inclassable, une fresque musicale, un voyage en 11 morceaux, 36 minutes, grandiose, qui démarre comme ça.
J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité.
La voix foudroyante de la diva malienne Fatoumata Diawara qui colore plusieurs morceaux du disque L'Amomalie est un projet collégial, un album de rencontre entre plusieurs univers et plusieurs générations comme un bal de Bamako.
Le Mali danse dans mon âme, on y soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako.
Le coloré bal de Bamako, l'une des seules chansons classiques dans sa forme L'Amomalie, est d'une richesse musicale épatante. Une dizaine d'artistes s'y croisent, Youssou N'Dour, Oxmo Puccino, le rappeur Nekfeu, à chaque fois pour des apparitions de quelques secondes, comme ici Louis Chédid.
Par cette vie, plus bruissante que tout, l'imaginer.
L'opus est une invitation à la tolérance, au vivre ensemble, à la solidarité. C'est une folie, ça respire la liberté. Les chansons sont simples et directes. On les prend en plein cœur. On aimerait tant entendre des disques de cette créativité plus souvent. Comment l'aventure L'Amomalie est-elle née ? Confidence de M.
J'ai du mal à dire que c'est un album de M tellement il est collectif, comme une maison d'artistes où ce serait comme ça un monde d'harmonie parfaite. C'est né d'abord d'une amitié avec Toumani Diabaté, qui est vraiment un des plus grands, sinon le plus grand joueur de kora au monde. Qu'est-ce que la kora ? La kora, c'est un instrument, c'est un peu un mélange de harpe et de luth, un instrument à 21 cordes. Il y a quelque chose d'assez divin dans cet instrument. Voilà, incroyable. Et c'est avec lui qu'on s'est dit un jour qu'on allait aller plus loin que des échanges sur scène, ce qui était déjà génial, mais de fabriquer un espèce de nouveau monde ensemble. Et donc on est parti de la kora que j'ai enregistré dans mon salon avec des micros, un Mali fantasmé, un Mali 2.0. Et tout en essayant de respecter la tradition. C'est vraiment pas anodin de faire quelque chose avec le Mali, avec l'Afrique, parce que c'est un retour aux sources, aux racines de nous-mêmes quelque part. Et donc c'est vrai qu'il faut être prêt pour vivre ça. C'est pas anodin, quoi. C'est pas juste un trip, c'est pas juste une expérience, comment dire, artistique. C'est une expérience humaine. Moi, je le vis comme un rite de passage. Je le vis comme quelque chose qui me fait grandir, mais qui est très subtil.
Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Est-ce que vous avez fui quelque chose avec ce disque, avec ce projet ? J'ai surtout essayé de réchauffer mon cœur, parce que c'était des moments glaciaux, quoi. On était complètement paralysés, anesthésiés par la douleur, par la souffrance de ces moments d'attentat, hein, parce que tout ça, ça a été écrit vraiment au moment où on a pris conscience de notre liberté d'expression en France. Il était question de célébrer encore plus la fraternité, célébrer la vie, et sans occulter évidemment cette partie fragile de notre existence. Mais évidemment que c'était très présent.
Vous aurez probablement
probablement reconnu la voix de Jane.
Après le second volume de la BO de Zem, hein, ou l'album familial des Chédid, M emprunte un nouveau chemin de traverse finalement.
Oui, dans une industrie musicale de plus en plus aseptisée, Mathieu Chédid apparaît presque comme un kamikaze.
C'est comme un devoir pour moi de le faire, pas avoir peur surtout de lâcher prise, de se tromper, de... On n'est pas là pour faire un divertissement superficiel, je veux dire, c'est vraiment pas le propos. C'est bien pour ça que Philippe Jaroussky est venu chanter avec cette voix divine et ça s'enchaîne avec le balafon et Karfala, grand griot malien qui chante avec Philippe Jaroussky. Enfin, je trouve que c'est ça la vie, c'est ça le bonheur.
Paroles dans l'album, c'est des chansons très dépouillées.
Je dirais que c'est à l'image de l'Afrique, on s'empêtre pas dans des formes, c'est pas alambiqué, c'est pas compliqué. Il y a vraiment un langage du cœur assez évident. C'est pas émouvant dans le sens où il y a du pathos, c'est émouvant parce qu'il n'y a pas de filtre. Et ça, nous on a tendance à un peu mettre des filtres partout. Mais c'est vrai que je suis en train tranquillement de préparer le terrain aussi de la nouvelle vie de M qui passe par cet album évidemment. Cet album c'est aussi un album de transition qui amène encore à d'autres aventures.
La magnifique voix de Philippe Jaroussky qui était avec nous la semaine dernière, évidemment. Abandonnez-vous à l'Amomalie, le nouvel et flamboyant album de Mathieu Chédid alias M. Il sera avec plusieurs invités ce samedi à 15h dans le grand studio RTL et aussi les premiers 2 et 3 juin aux Nuits de Fourvière à Lyon, ça va être magnifique. Les 9, 10, 11 juin, salle Playel à Paris, puis dans quelques Zéniths et les festivals cet été.
Merci beaucoup pour ce voyage, Steven Bellery.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bah évidemment. Alors, on vous a beaucoup parlé du très méchant Gargamel, l'ennemi des Schtroumpfs. La question qui vous était posée au 3210 pour gagner ce DVD du film d'animation Vaiana, ainsi qu'un iPad mini, je vous le rappelle, était « Mais comment s'appelle son chat à roux ?»
Azrael.
Merci beaucoup de cette réponse brève, concise et finalement informative. Je vais pouvoir donc moi reprendre mon palmarès des 10 meilleures bloquettes de veau dans le Pariscope et surtout dire bonjour à Julien Courbet.
Et au moment où démarre la nouvelle émission politique d'RTL... Ah. Nous recevons un invité, Jean Lassalle. Jean Lassalle, ouais, quel est votre programme ?
Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis. Et quand on a la chance d'être dans ce pays, on est comme en vacances. Durant toute sa vie. Aïe tout chiquitou, aïe tout paquet. Aïe tout chiquitou, aïe tout paquet. Aïe tout chiquitou, aïe tout paquet. Aïe tout chiquitou, aïe tout paquet.
Alors, mieux vous dire, Luis Mariano n'a qu'à bien se tenir.
Écoutez, ça m'a fait plaisir hier soir. Ça m'a rappelé toutes les férias que je faisais quand j'étais jeune. À chaque fois que Jean Lassalle parlait, j'étais en vacances.
Et vous comprenez, vous, quand il parle ?
Non, pas tout à fait. Non.
Pas tout.
Des fois même, je pensais que c'était un filtre Snapchat et pas du tout. Apparemment, il était vraiment filmé comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée.
Belle émission, vous êtes en forme.
J'ai passé une tellement bonne soirée hier soir. Merci beaucoup.
Allez, tout mes chiquitous.